podcast.com. Essaye ça.
Bonjour et bonsoir, mesdames et messieurs et les autres. Mon nom est Andy Jacques. Vous êtes à Terre Basique, le podcast le plus québécois de tous les podcasts sur Magic, The Gathering en français, s'il vous plaît. Mon nom est Andy Jacques. Évidemment, je suis entouré de beaux hommes, tous blancs. pour l'Halloween, clairement, personne n'a reçu le mémo, à ce que je peux voir. J'ai payé 300$ pour ce costume-là pour ce soir.
Ouais, t'es en beau Mega Man 2?
Oui, ben ou un.
Mega Man 1.
on vient d'entendre la chaude voix de Jason. Comment ça va, Jason?
Ça va bien.
Et Jason, je pense que tu nous as amené un petit peu de l'or pour l'Halloween ce soir, c'est ça?
Oui, on va se... Parce que tu sais, il y a beaucoup de pirates hein, dans le nouveau Zalan. Fait que j'ai posé la question, quel est le bateau légendaire le plus connu de Magic?
Ouh. Puis il vole pas, j'imagine?
No spoilers.
On a aussi...
Juste pour comme pousser la joke encore plus loin, là, de tous les candidats, là, il y a plus de bateaux qui volent pas.
Ouais. Bienvenue dans Final Fantasy. On a aussi avec nous François Lompré. Comment ça va, François?
Salut les magiciens! Ça va bien?
Allô?
Ça va bien, c'est l'Halloween. J'ai un petit sugar rush, là. Mes gars, ils m'ont apporté plein de bonbons.
Ceux qui n'aiment pas, j'imagine?
Ceux que je prends.
OK.
C'est la taxe du papa.
On a aussi avec nous Jonathan Gauthier, notre petit arts, qui est avec nous. Qu'est-ce qu'on entend aussi? C'est toi qui as fait le choix musical?
Ben, moi, je me suis dit que ça serait vraiment cool parler de pirates aujourd'hui, puis ben, la semaine passée, j'ai pris un de mes jeux préférés avec des dinosaures dedans. Cette semaine, jeu préféré avec des pirates dedans, Monkey Island, le premier.
Ah, ben oui.
Vieux soundtrack, old school.
Guy Broche.
Dans le temps qu'on n'avait pas accès à l'Internet pour trouver les puzzles de fou.
Là là. Et qu'il y avait des roulettes genre en 3D, là, en rouge. Là.
Ouais, c'est un des... Dans le temps, dans le... Les hauts points de LucasArts, tout dépendamment de ce que vous préférez comme média.
Moi, j'ai trippé sur Loom. Loom, je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment aimé ça. Et évidemment, on finit la présentation avec Emmanuel Côté-Séguin, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à nous parler ce soir.
Warriors Halloween!
Ouais, ben oui, mais personne n'a reçu le style mémo encore une fois.
Écoute, on est déguisé en participant de podcast sur Magic the Gathering. Tu vois, c'est original, hein?
Ah, moi, j'ai sorti Eddie.
Eddie.
Et voilà, fait que c'est un demi.
De Iron Maiden, ou on le voit, il est de loin, là? Ah, ben ouais.
Ah, ben voilà. Ah, ben, et voilà.
On a un zombie sur le show. Ça sera pas le premier. Oui, ben écoute, si ça vous tente, là, si vous écoutez ce podcast à l'heure de sortie, il y a toujours un Midweek Magic sur Arena qui dure genre de mardi soir à jeudi soir à peu près. Là, c'est comme 48 heures. Puis cette semaine, c'est des seals gratuits. Là, c'est Phantom, là, fait que tu gardes pas les cartes. Mais il y a de quoi se faire du fun. Un double feature de Crimson Vow puis Midnight Hunt. Fait qu'il y a deux seals pour le prix de zéro, là, parce que c'est gratuit, mais il y a deux seals séparés, puis quand tu, dans le fond, tu seals ton Crimson Vow, puis tu joues contre du monde qui ont fait leur seal de Midnight Hunt et vice-versa.
Ah, c'est donc belle fun, ça.
Fait que si concept. Vous voulez vous replonger dans l'Halloween de l'année passée, là, à la date, là, j'ai fait celui de Crimson Vow, puis ça a bien de la lourde.
Puis nous, on l'avait vécu à Las Vegas, j'arrête pas de recevoir des notifications de what you were doing last year.
C'est vrai, hein? Ben oui, des petites photos. sinon, ben là, les spoilers sont bien en branle. Là, on est en plein dedans. Ça fait qu'on va, on peut peut-être s'en regarder une coupe ensemble.
Je peux-tu parler de quelque chose avant qu'on parle?
Ben oui, vas-y, go for
it. Cette semaine, j'ai vu ça vite. Je sais pas si vous avez vu ça, vous autres aussi, mais il paraît que jouer à Magic dans un show metal, ça se fait.
Il y avait du monde qui jouait à Magic au milieu d'un mosh pit.
C'est au Texas, là, le band s'appelle Frozen Soul. Puis il paraît que c'est pas la première fois. Puis le plus horrible de tout ça, c'est qu'il jouait pas de sleeve.
Ah, ben là. Ben oui, ben là. Tant qu'à être métal, t'es métal pour venir. Ouais, ben, pas de slip, ben, let's go. Là.
Hein, fait que c'est ça. C'est fun fact.
Fait que oui, ben écoute, c'est, vous nous écrirez c'est où l'endroit le plus weird où est-ce que vous avez joué à Magic. J'ai du monde, je connais du monde qui ont joué dans un hot tub. avec des cartes de marde là, avec un dollar à draft là,
fait un que dollar à draft dans un hot tub
dans un hot tub là, sur des petites tables flottantes. fait que parlant de hot tub, c'est sûr qu'il y en a dans le la caverne creuse d'Ixalan. Fait que voilà, on va regarder quelques cartes ensemble. On avait dit qu'ils complétaient le cycle des Restless Lands, les Manlands dans les couleurs qu'il n'y avait pas. Fait que tu sais, par exemple, il y a le Restless Ridgeline qui se transforme en 3-4 dinosaures rouge-vert. Puis quand il attaque une attaque attacking creature qui a +2/+0 jusqu'à la fin du tour et tu l'untap. T'as Restless Encourage qui se transforme en Bird 2-3 Flying qui te permet de créer un map token quand t'attaques avec, etc. etc. Il y a le Restless Reef noir et bleu 4-4 Black Shark Creature avec Dead Touch quand attaque target player mill de 4. Ça avec...
C'est pas
vous remarquez, c'est pas target opponent, c'est target player, parce que ça, avec les descend, ça risque d'être peut-être intéressant de te targeter toi-même.
Ben oui.
C'est sûr qu'il va avoir une stratégie, là, surtout dans le bleu-noir, là, je vous le dis tout de suite. Sinon, on continue le cycle des dieux. Là. Il y avait les espèces de gods qui étaient cachés au centre d'Ixalan. On voit ici, là, on avait vu le art là, de l'espèce de grand-maman papillon. Là. C'est Oyer Kaslem, Deepest Growth. C'est la déesse verte, 3 colorless, 2 verts pour une 6-5 Trample. Quand elle fait du combat damage à un joueur, tu révèles autant de cartes que de dommages que tu as fait du top de ton deck. Tu peux mettre une creature card ou un land card sur le battlefield de parmi ces cartes-là. Tu remets le reste dans un random order en dessous. Et puis, lorsqu'elle meurt, elle se transforme en le temple de la cultivation que tu peux taper pour un vert. Tu peux aussi payer 2 colorless un vert. Le taper pour le transformer. Fait que la redevenir... La déesse, tu peux seulement l'activer si tu contrôles 10 permanents ou plus et seulement en sorcery.
Ça, c'est un peu compliqué, là.
Ben, pas vraiment, là. Ça compte tes lands. Fait que si t'as attaqué avec une coupe de fois, ben, t'en as mis en jeu avec. Fait que...
Oh, j'avoue, hein.
Ouais, c'est assez musclé. C'était combien pour Ascend, Jason, tu te rappelles-tu?
C'était 10.
10, bon,
c'est permanent. Donc, t'avais les treasures, puis vu que ça se produisait beaucoup de treasures, c'était quand même facile se rendre à Ascend, que je me rappelle en draft. Ah,
ouais. Puis Ascend, ben, c'était dans le Ixalan, justement. Puis là, ben, on a Descend, fait qu'on avait Ascend, puis on a Descend. sinon, dans le bleu, tu as Oyer Pakpatik, Deepest Epoch. 2 colorless, 2 bleus pour une 4-3 flying. À chaque fois que tu castes un instant spell de ta main, ce instant-là gagne Rebound. Ça veut dire que tu le recastes là, au début de ton prochain tour pour gratuit, là, sans payer son mana cost.
J'aime ça que phonétiquement, même les noms rappellent l'origine de cette époque-là puis de la région. Absolument. Je trouve ça cool.
Ouais, ils l'ont pas appelé Roger de Deepest Epoch. Là. Quand il meurt, tu le retournes taper avec 3 time counters on it. Pourquoi des time counters? Parce que ça devient un land là, comme les autres, le temple du temps cyclique. Hein, c'est l'espèce de serpent qui se mange la queue, là, le Roboros. Tu peux le taper pour un bleu et enlever un time counter de dessus. Et puis ensuite, tu peux payer 2 colorless, un bleu, le taper pour le retransformer s'il y a plus de time counters dessus.
Ça peut aller vite. Si tu as des affaires qui détapent ton land.
Entre autres. Entre autres. Ben, c'est intéressant. Il y en a d'autres, le dieu noir. Il y a des créatures de toutes sortes. Là. Celui-là, lisons-le ensemble, voir si on comprend. Sovereign Okinek Aho. 2 colorless, un vert, un blanc. Une 3-4, 4 noble. C'est avec ward de 2. À chaque fois qu'il attaque, pour chaque créature que tu contrôles avec un power plus haut que son base power, tu mets un nombre de +1/+1 counter dessus la créature équivalent à la différence.
Comprends.
Ouf!
C'est genre training hyped up, y'a pas une affaire genre
que... Non, en fait, c'est bon avec les auras et les équipements.
Ouais. Ah, ok.
Ou des combat tricks, par exemple. Mais tu sais, disons que t'attaques avec Sovereign Okinek, puis t'attaques avec un autre bébite qui est une 2-2, puis qui a une aura qui lui donne +2/+2. Ben là, c'est une 4-4, elle a 4 de power comparé à son base power de 2, fait que tu mets 2+1/+1 counter dessus.
Ok, oui, comparé.
La prochaine fois que tu attaques avec ces deux-là ensemble, c'est 6, mais son base power c'est 2, fait que tu mets 4+1/+1 counter dessus.
Ouais.
Fait que ça devient méchant rapidement. Évidemment, faut qu'il attaque.
Ça te rajoute du value sur Giant Growth.
Par exemple.
Avec un bar d'autre, ouais.
Avec son Ward 2, il est bon aussi.
Mm-hmm. Et j'avoue que ça doit marcher avec les instants, justement, les instants qui boostent pendant l'attaque. Là.
Yep. Ouais. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je disais, les combat tricks, les n'importe quoi. Là, honnêtement, même si tu as un anthem effect, ça compte. Là. C'est quelque chose qui donne +1/+1 à toutes tes bébites.
Ben ouais. Oh, c'est pas pire.
Ouais. Aya Akal Pakal, le premier parmi ses égaux. Deux colorless, un bleu, un Human Advisor, 1-5 au début de chaque player and step. Si un artefact qui est rentré sur le battlefield sous ton contrôle, tu regardes les deux premières cartes de ton deck, t'en mets une dans ta main et l'autre dans ton graveyard. Ça va être pas pire. Dans le rouge, t'as Inti, qui est, je pense, le cousin de Watley, le sénéchal du soleil. Un colorless, un rouge, une 2-2, Human Knight. À chaque fois que t'attaques, tu peux discarter une carte. Si tu discartes, tu mets +1/+1 counter sur une attacking creature. Et elle gagne Trample jusqu'à la fin du tour. Et quand tu discartes une carte ou plus de peu importe de quelle façon, là, que ce soit avec cette habilité-là ou pas, tu exiles la top card de ton library et tu peux la jouer jusqu'à la fin de ton prochain end step.
C'est excellent.
Là, tu sais, surtout en rouge, là, on sait qu'il y a beaucoup d'effets qui te permettent de discarter pour piger. Ben là, tu peux ramener du value avec les cartes que tu as discartées. Là, fait que,
ça va avoir du jeu, je pense.
Parce que oui. peut-être, je sais pas si ça va avoir du jeu, là, mais il y a clairement un bon support pour les dinosaures qui revient. La dernière fois que ça a été aussi intéressant, ben, c'était avec Xalan, justement. On a ici le Palanis Hatcher, 3 colorless, un rouge, un vert, une 5-3 qui donne haste à tous les dinosaures. Quand ils rentrent sur le battlefield, tu fais des œufs dinosaures, 0-1 Green Dinosaur Egg. Puis au début de ton combat à chaque tour, si tu contrôles un œuf ou plus, tu sacrifies un œuf et tu te fais un 3-3 Green Dinosaur Token.
Il peut attaquer immédiatement.
Ben oui, parce qu'il y a haste. Est-ce que ça va être joué avec cette jolie carte Poetic Ingenuity? Deux colorless, un rouge là, sur laquelle on peut voir Saïli et Wattie se regarder amoureusement.
Ah ben oui! De
ben oui, toi, you inspire me, ça dit le
voilà.
Flavor Text.
Joyeux Saint-Valentin, tout le monde.
Ben oui. Ouais, joyeux Saint-Valentin et Halloween. C'est un enchantement qu'à chaque fois qu'un dinosaure ou plus que tu contrôles attaque, tu fais autant de treasure tokens que de dinosaures qui attaquent. Et lorsque tu fais quand c'est un artifact spell, tu te fais un 3-1 Red Dinosaur Creature Token. Tu peux seulement faire ça une fois par tour. Fait que ça te fait des trésors pour casser tes dinosaures qui te permettent de refaire des trésors. J'ai hâte de voir si ça va être bon. Pugnacious Hammer Skull, 2 colorless, un vert, une 6-6 pour 3. Hein? C'est quoi la pogne?
Mais Magic va mourir!
À chaque fois qu'il attaque, si tu ne contrôles pas un dinosaure, tu mets un stun counter sur le Pugnacious
Hammer
Skull. Il y a une tape juste dans deux tours.
Si tu faut que tu mets joues des dinosaures avec, sinon...
C'est très facile,
mais c'est
Mais c'est parce que t'as pas beaucoup de dinosaures de 1 ou 2 casser le casse.
Je sais, mais maintenant tu casses lui au tour 3, puis là, au tour 4, t'en as un.
C'est
un bon en draft, là, mais je pense pas que ça va avoir du
potentiel. Non, si c'est bon ou mauvais, j'aime la façon qu'ils ont qui rentre la mécanique que Dinosaurs Matter, genre que tu veux mettre dinosaures d'une autre façon que check ton board, là, c'est au moment précis de l'attaque, puis si mm-hmm. t'en as pas, tu peux quand même te servir de la carte.
Une attaque de 6, ouais, c'est ça. C'est,
puis
c'est...
genre, on a juste tout vu la carte, puis on a commencé à faire comme, ok, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon, mais on a titillé la carte. Fait que, ouais, ça fonctionne ou pas, moi, je donne 10 sur 10 sur 2.
Moi, je joue vers Stumpy, là, qui est vraiment exactement ça que je veux faire, là, du très haut power pour du bas casting cost. Yeah. Puis, fait que je connais pas mal les cartes à 1 ou 2 casting cost en vert, là, puis je trouve. Je suis sceptique sur celle-là.
On a un sceptique comme parmi
ça, si ça ne tape pas le prochain tour, là, ça vaut pas la peine. Puis les autres dinosaures qui sont bas de Kassinkos sont pas très bons, fait qu'à date. Là.
Ouais. Mais ça reste un mur de 6-6 pour 3. Là,
Ouais, mais non, mais ça, on s'en fout, Andy. Là. Le but, c'est que tu veux attaquer au troisième tour avec ta 6-6.
Ben, tu peux quand même.
T'attaques, puis après ça, tu réattaques au cinquième tour.
Ben ouais, c'est
parce
ça.
Que pendant qu'elle stun, c'est qu'elle a pas de taper. Non. Fait que c'est pas un mur,
hein? Oui, non.
Bon. Puis sure. moi, quand je joue un deck aggro, là, je te défends pas, j'attaque à tous les tours.
Ben, c'est ça. Fait que t'attaques.
On sait pas s'il y en a des. On n'a pas vu des dinosaures de 1 ou 2, peut-être qu'il y en a. Non?
Il y en a.
Ben, en tout cas, continue.
on verra. Une carte qui sera peut-être bonne, en tout cas, si vous vous rappelez à quel point Explore pouvait être brisé parfois. Sentinel of the Nameless City. 2 colorless, un vert pour un Merfolk Warrior Scout. 3-4 Vigilance.
Ah, ça, c'est
3, hein. Chaque fois qu'il rentre sur la battlefield ou qu'il attaque, tu te fais un map token.
Toi, ça, c'est bon. Ça, ah, c'est bon. Hein? Puis en plus, regarde, Tendy, là, non seulement elle attaque, mais vigilance, c'est un mur.
Ben oui, puis tu peux le booster.
C'est OK, 3-4, t'es pas 6-6.
Ouais.
Elle va virer 6-6 assez rapidement.
Elle va virer 6-6. C'est que tes map tokens, ça sert.
Un petit reprint, Resplendent Angel, ceux qui se.
Ah, ben oui, Gadon.
Tu te rappelles, je crois que c'est dans M19.
C'est dans M19.
Ouais. Flying 3-3 là, pour 3, un colorless 2 blanc. Que si t'avais gagné 5 de vie ou plus, toi aussi, tu te fais un 4-4 Angel avec Flying Vigilance. C'était nasty, là. C'était encore
joué. Bon,
dans...
ouais.
Ouais, c'est encore joué, là, souvent, là, dans les decks ouais. de Life Gain, là, puis d'Angel. Là, ouais. Parce que ah, tu ouais, peux la pomper elle-même, là, pour 6. Tu lui donnes plus 2 lifelink, fait que ça trigger son gain de 5 de vie. Là.
Ouais, ça, si t'as pas de réponse pour la tuer,
ça va vite.
Ça va mal. Ça va très ouais. mal pour toi si t'es pas capable de la tuer.
Sinon, il va y avoir des gros artefacts. Là. Je vous en ai sorti une couple. Là. Le Matzad ouais. Lantli de Great Door, 3 colorless. Pige une carte, tu le tapes pour piger une carte, discarter une carte. Ensuite, tu peux payer 4 pour le transformer. Seulement si t'as 4 permanent type ou plus dans les cartes dans ton graveyard. Et ça devient de. L'autre bord, il n'y a pas ouais, suivi.
Tu t'es là. Trompé, là.
Non, mais il doit être
peut-être plus bas,
dans l'ordre. C'est The Core. Tu peux le taper. Ça devient un Legendary Land que tu peux taper pour ajouter X mana d'une seule
c'est
couleur. Ou X, c'est le nombre de permanents dans ton graveyard.
Ça, c'est bon, ça.
Ouais.
Ouais. Ça, je me suis amusé à le calculer. Puis minimalement, que tu es capable de le flipper, là, ouais. Il tape pour 4.
C'est comme
pour le flipper,
il
fallait que t'avais 4.
Ouais, c'est ça.
Fallait que t'avais 4 permanents différents dans ton graveyard pour qu'il flippe.
Puis j'avais comme demandé.
C'est différent ou pas différent?
C'est différent.
Différent. Fait que c'est ça. Fait que c'est va être minimum, là tu le flippes. Tu payes 4, tu le flippes. Là, t'as un land qui, dans le fond, te paye 4. C'est un bon ramp. Ça va être le fun. Je pense pas, ouais. Je sais pas sur à quel point ça va avoir du gros construit, là, mais.
Non, mais t'as
une bonne carte de Commander.
Non, c'est ça. C'est que la différence, c'est que si on parle de permanent type, mais de l'eau basse, c'est juste des permanents. Fait que si t'as 10 permanents, ça coûte 10, c'est 10 mana, là.
Ouais, yep. Mais ce que j'aime.
Oui, mais je veux dire, c'est parce qu'à un moment donné, moi, ce que je voulais dire, c'est le plus rapidement.
Oui.
C'est quoi le minimum,
c'est des permanents, c'est pas des spells. Fait que. C'est un genre de petite restriction thématique dans, pour Ixalan, pour le set, puis en même temps, le pouvoir des premiers spells qu'on va passer, ça va être des spells qui coûtent X à part les hydres, mais c'est comme non, c'est des sorceries ou des instants, fait que ça réduit le card pool
vraiment beaucoup. Mais avec les caves, ça va permettre rapidement de mettre un land.
Ouais.
Déjà dans ton graveyard, il y a beaucoup d'artefacts là, qui rentrent en jeu qui ont un effet que tu sacrifies. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. C'est sûr qu'une créature, c'est facile à envoyer dans le graveyard. Là.
Puis la créature peut être enchantée, fait qu'un enchantment, comme ça existe.
Yep. On verra. Mais justement, là, tu vois le centre de Xalan, aussi sa carte, le Chimil ou Kimil, je sais pas. The Inner Sun, 6 colorless, Legendary Artifact, les spells que tu contrôles ne peuvent pas être countered. Et au début de ton end step, tu discovers 5.
J'ai besoin de ça pour jouer en multiplayer.
Ton deck de tron l'ont pris, hein?
J'ai des flashbacks.
Ton deck de tron, là, c'est bon, ça?
Ah oui.
Bon, ben, tu t'en réserveras une. Écoute, justement, là, dans le blanc, là, une carte qui risque de faire chier du monde. 3 colorless, 2 blancs. Tu sais, on parlait qu'il mettait l'effet de sorcery ou d'instant sur des artefacts, ben celui-là c'est un bon exemple. Là, c'est un board wipe qui quand l'artefact rentre sur le battlefield, si tu l'as casté, pour chaque joueur tu choisis une créature avec power 2 ou moins et puis tu détruis toutes les autres créatures et puis tu peux le craft with artifact, fait que tu t'exiles un autre artefact soit de ton graveyard ou du battlefield, tu payes le même prix, 3 colorless, 2 blancs, et ça te fait un flying 5-3, le Sense World Wonder Glyph. À chaque fois qu'un adversaire caste un spell ce tour-ci, il peut pas attaquer toi ou un planeswalker que tu contrôles, et si chaque adversaire, si t'ont attaqué ou un planeswalker que tu contrôles, ne peuvent pas caster de spell ce tour-ci, fait que dans les decks blancs de prison, là, ça va
Seigneur,
ça va être chiant.
Ouais, c'est combien de base? C'était 5?
5.
Ouais.
Yep.
C'est un peu cher.
Ben, si tu veux quelque chose de cheap, j'ai le Tarian Soul Cleaver pour un colorless, un équipement qui donne vigilance à la créature. Tu peux l'équiper pour 2. Puis à chaque fois qu'un autre artefact ou créature est mis dans un graveyard du battlefield, tu mets +1/+1 counter sur la créature. N'importe quelle créature. Ça peut être tes adversaires. Si tes adversaires jouent des maps tokens puis qu'ils sacrifient des maps tokens.
Des trésors.
Des foods. Des affaires de sacrifice.
Pour ceux qui se demandent, c'est qui Tariel, hein? C'est un des premiers conquistadors aux vampires dans le.
Ah, c'est ça, je m'allais dire. C'est quand j'ai le feeling que si tu pognes ça en draft avec les petits vampires qui sacrifient. Puis ouais,
mais tu peux remarquer quand tu regardes le art, il y a le Black Rose au milieu.
Ouais, la grosse rose noire.
Qui est l'espèce de symbole des conquistadors vampires, justement. Tiens, un petit land, vous me direz ce que vous en pensez. Le Echoing Deeps, c'est un land cave rare. Tu peux le faire rentrer sur le battlefield en tant que copie tapée de n'importe quel land qui est dans un graveyard. Sauf qu'il reste une cave. Et puis sinon, ben, tu peux le taper pour un colorless.
Oh, quand même.
Ouais,
pour n'importe quel land?
N'importe quel land dans n'importe quel graveyard.
Oh, ouais, avec
Lotus
Bloom, que tu sacrifies.
Lotus Veil, puis.
Ouais, ces affaires-là. Mm-hmm.
Toutes les Lotus, tu sacrifies des lands.
J'ai l'avoir vu venir, l'avoir lu d'avant, j'aurais peut-être comme cherché, mais je suis pas mal sûr qu'il y a du monde sur Reddit qui sont donné une mission de briser à court terme.
Peut-être dans Lotus Bloom en Pioneer. Ça.
Yep. Parlant de briser quelque chose, à vous de trouver la façon de le briser. C'est le calendrier millénial pour un colorless. Un
de Legendary. 2012!
Ben oui, c'est
exactement ça.
On a mis le Legendary Artifact. À chaque fois que tu untaps un permanent ou plus pendant ton untap step, tu mets autant de counter que de permanent untapé sur le Millennium Calendar. Puis ensuite, tu peux payer 2 colorless pour le taper et doubler le nombre de time counters sur le Millennium Calendar.
T'as pas allé vite.
le monde va sortir leur calculatrice. Bon, ça, c'est assez facile. Tu fais x2. Là.
Tu mets des 10. Vas-y.
Et lorsqu'il y a 1000 counters ou plus sur le Millennium Calendar, tu le sacrifies et chaque adversaire perd 1000 de
points de vie.
J'aime tellement le wording, là.
Ah, awesome, man. Ça, là.
Tu perds 1000 points de vie, mon homme. C'est fini.
Ça va vite, hein, parce que tu doubles. Pense-y, là. Mettons, t'en tapes 4 lands, là. Puis là, après ça, tu le tapes. T'en ajoutes 8, 16. Tu sais, c'est exponentiel.
Puis à chaque fois que tu détapes, tu rajoutes des compteurs en plus du doublage.
Ils ont calculé, je pense que tout seul, ils tuent en 10 tours.
Dis-toi.
Ouais,
tout seul, c'est ça.
On s'entend que Tu sais, il y a une façon.
Il n'y a pas d'aide, là.
Infinite on tap ou genre des tokens ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a.
Puis Tommy avait sorti une affaire aussi, là, que à chaque fois que tu mets des compteurs sur quelque chose, ça fait. Sorti. Ah, c'est toi, excuse.
Ouais, pourquoi attendre 1000 dans le set All Will Be One, il y avait la carte All Will Be
All
One.
Will be one.
Trois colorless, deux rouges, là, qu'à chaque fois que tu mets un counter ou plusieurs counters sur un permanent ou un joueur, All Will Be One fait autant de dégâts à un target opponent, creature. Ou creature qu'un opponent control ou un planeswalker. Fait que, tu sais, déjà, si tu mets 10 counters sur le Millennium Calendar, ben, tu fais 10 de dégâts à quelqu'un. Là,
là tu payes 2, tu tapes celle-là, fait que là, t'en rajoutes,
fait que là, t'en mets 20 dessus.
20.
Ben, moi, une créature qui fait partie du Zeitgeist de ce temps-ci à cause de. Dungeon Dragon, le Baldur's Gate.
Baldur's Gate.
Que le monde. Je sais pas si c'est fini, si le hype est fini, mais je
l'ai entendu parler. C'est encore là.
Ben, il est encore là, mais il est comme moins là qu'il y a un mois, mettons.
Mais t'as une créature blanche dans le set de Baldur's Gate qui double les counters.
Oui.
Le Lazel, qui
a beaucoup aimé.
Il y a aussi des.
Un peu bitch.
Il y a des vieux sets aussi qui jouent avec les time counters. Future Sight, je pense.
Je sais pas si c'est volontaire, mais je trouve que ça tombe bien la thématique de temps en même temps que le lore set spécial de Doctor Who.
C'est vrai, hein?
Ah, il doit en avoir des time counters là-dedans?
Suspend, non. Mais time. La thématique time revient souvent, mais ils ont surtout joué avec Suspend.
Ouais.
De la semaine?
Let's go!
On y va, donc on va aller à la carte de la semaine, une présentation de notre magasin affilié, l'adversaire, au 4303 rue Sainte-Catherine-Est à Montréal. Y a-t-il quelque chose de spécial cette semaine, Emmanuel?
Non.
Pas grave, on peut y aller
par une vente pour le Black Friday.
Ah, bon ben voilà, ça c'est quelque chose de spécial. Puis Jason?
Tournoi de Magic le 30 novembre, Old School.
C'est dans un mois. Excellent.
Dans un mois exactement.
Parfait. Et on va aller écouter le Beat à Bone. Puis on revient après. Caroline, que c'était bon ce beat à bombe là. Quelle est la carte de la semaine, Emmanuel? Il me semble que c'est Jonathan. Emmanuel, excuse, Jason.
Jonathan,
il me semble que c'est Jonathan qui l'a trouvé.
Jonathan qui l'a choisi. On
ouais,
l'a
ben
choisi.
C'est Tishana Tidebinder. Une carte que je sais pas si je vais l'aimer, mais qu'elle sorte, mais j'ai. J'ai le feeling qu'une fois de temps en temps, les Wizards réussissent à nous sortir une carte qui warp un format.
Ah ben, elle fait beaucoup jaser, hein? Décris-nous là avant de partir.
Ouais, ben dans le fond, c'est un Merfolk Wizard Flash. Quand il rentre sur le battlefield, il counter un target activated ou triggered ability. Fait qu'une habilité sur le stack, t'as automatiquement une réponse. Et en plus, si ça vient d'une créature, un artefact ou un planeswalker, le permanent, il devient vanille soudainement, il a tout oublié ses skills.
Tant que Tishana Tidebinder est sur Battlefield.
Tant que Tishana est là pour comme, faire le Jedi Mind Trick. Fait que ça, c'est l'effet. Puis, Jason, tu vas peut-être comme, pouvoir me corriger là-dessus, mais j'ai le feeling qu'en background, il y a un clin d'œil volontaire au moment entre Ancestral Recall et Ancestral Vision.
Ça ressemble un peu à ça. Sur le art, là, on voit le bâtiment en arrière, ça ressemble beaucoup à Ancestral Recall qui était une pyramide aztèque. Sauf que je ne verrais pas le lien que ça a avec l'effet qu'a fait. Là, je veux dire,
non, en effet,
parce que tu sais, Ancestral Recall et Ancestral Vision, tu piges 3 cartes, là, ça te fait pas viger. Ça, ouais. Ça, by the way, c'est 2 colorless un bleu, fait que ça coûte 3. Ça fait beaucoup jaser parce que c'est un Merfolk Wizard, puis les Merfolk sont très joués en moderne. Ils ont une petite renaissance là, ces temps-ci dans le format moderne. C'est vraiment simple, les decks de Merfolk, là, toutes tes cartes, c'est des Merfolk, puis ils se bougent entre eux autres. Le problème, c'est que ça coûte. Moi, je suis un peu sceptique là-dessus qu'ils vont l'utiliser parce que ça coûte 3, puis les decks de Merfolk, la plupart des Merfolk sont 1 ou 2. Fait que, tu sais, comme. ça, il n'y a pas beaucoup de place là, pour un spell à 3. Moi, je pense que ce que ça va avoir du jeu, c'est comme une carte de sideboard. Parce que dans le format moderne, ça détruit beaucoup de combos problématiques qu'il y a là en ce moment. Hein. Depuis cet été, on parle le fameux été de l'anneau. Hein, le One Ring, qui est vraiment tous les decks en moderne en ont 3 ou 4. Ça, Tishana Tidebinder, si tu es capable de l'utiliser. Dans le fond, cette carte-là, c'est comme un cancel. Hein. Tu l'utilises comme un counter spell, elle coûte 3, puis elle a flash. Fait que s'il sort son One Ring, tu sors Tishana sur le stack, son anneau servira à rien. Puis aussi, c'est bon contre les fameux decks de scam, qui est vraiment comme le deck à abattre en moderne ces temps-ci. Là, c'est parce que c'est plein de spells qui coûtent rien parce que tu exiles des cartes de tes mains. Tishana Tidebinder, ça permet de counterer ça. Faudra voir. Moi, je suis sceptique de ceux qui disent que ça va être vraiment fort parce que ça coûte 3. Puis, comme généralement, je trouve qu'en moderne, le casting cost moyen ces temps-ci est à 2. Là, fait que, tu sais, je trouve que c'est déjà pas mal cher, Tishana Tidebinder. On peut voir ça peut-être dans les decks rouges et bleus de Phoenix. Là, ça va peut-être voir du jeu. Mais c'est vraiment une carte de sideboard. Cependant, il y a beaucoup de gens qui spéculent que ça va être la grosse carte qui va avoir beaucoup de jeux construits là, de Lost Cavern of Xalan. Ce qui est un peu drôle, là, parce que c'est un peu contre-intuitif, là, c'est pas une grosse carte splashy, là. c'est un Murfolk qui vient comme scraper les blancs.
C'est un outil. Là.
Ouais. Et pour le lore, oui, vas-y, non plus.
Pour le format Legacy, j'y vois jouer du potentiel, par exemple, parce qu'en Legacy, tu peux avoir beaucoup de mana rapidement.
Ouais.
Il faut un counter spell dans même en début de game, c'est chiant, hein, c'est
ça. Ben, c'est pas un counter spell, c'est un counter spell.
Tu joues un counter spell qui coûte 2.
Ouais, mais en tout cas. Moi je pense.
Parce que moi c'est ça. C'est tant qu'à ça, tu vas jouer un vrai counter spell, le 50 level en graveyard.
Ouais, mais c'est un body, là, avec ça.
Ouais, oui, mais ça. Justement, s'il tue ton body, il fait un fatal push dessus, là, sa carte que t'as counteré, elle marche au lieu d'être dans le graveyard. C'est pour ça que je suis sceptique de ça.
Ouais, je suis
pas mal. C'est à
moi, sérieusement, je suis pas capable de deviner le quel format ça va jouer. Ça va être soit pas. Moi, je vise probablement Pioneer puis Modern. Legacy, je pense que tu peux tellement faire des affaires pour zéro puis ton.
Faut que
si t'en as besoin, tu vas aller faire. Tu vas jouer Cypher, le seul qui counter une habilité. Mais pour 3, je le vois dans des formats comme Modern puis Pioneer.
T'as un sideboard en standard. Là.
Ah, moi, je pense c'est que il risque d'avoir un joueur à mener qui le main. Puis, comme si cette carte-là perce, elle va être partout. Mais je peux pas prédire de quel bord qu'elle va percer. Moi, je vois beaucoup de potentiel. Le mur de texte qui est là, comme tu dis, tu parlais des Merfolk. Souvent, les Merfolk, c'est que tu vas wide, mais tu n'as pas nécessairement beaucoup de toolbox. C'est un Merfolk qui fait un effet, qui mute en même temps. Je suis pas mal sûr qu'elle va percer quelque part, mais je sais pas où.
Il y a Flash, ça a l'air niaiseux, là, mais à Flash, fait qu'elle va sortir autour de l'autre, puis elle est prête pour le tour
d'après. C'est ce qu'on dit depuis tantôt, Andy. Là. C'est pour ça qu'on dit que c'est comme un counter spell. Si elle n'a pas Flash, ça ne sert à rien, ta carte.
Non, mais non, je comprends.
C'est un bloqueur surprise.
Hey, fun fact, Tishana. Ah, c'est qui ça, Tishana?
Ben, who the fuck is Tishana?
Ouais, Tishana, c'est que dans le vieux Xalan, il y avait comme une chicane entre les Merfolk. Là. T'avais la gang Akumena, qui était surtout les Merfolk comme vilains un peu. Puis t'avais la gang à Tishana, qui était tout ce qui était, là, si vous vous souvenez dans le standard de l'époque, là, les cartes autour de Jade Light, Ranger, Merfolk, Branch, Walker. Mm-hmm. C'était les Merfolk verts qui se pompait avec des counters +1/+1 puis qu'il était capable de faire animer des élémentales. Là. Ben ça, c'est Tishana, c'est leur boss. Là. C'est une chamane et ce qu'ils sont capables de faire, c'est ça, c'est qu'ils manipulent les éléments, c'est comme faire des genres de tsunamis ou animer des arbres. Fait que c'est pour ça que le Tishana Tidebinder, on voit qu'il est en train d'engloutir une pyramide sous un genre de grosse vague. Pas mal cool comme petite référence.
C'est tout? Excellent. Fait qu'on va retourner au Beatabone. Ça, c'était la carte de la semaine qui était la présentation de l'adversaire, le pub ludique au 4303 rue Sainte-Catherine-Est à Montréal. Vous pouvez y aller et jouer à des jeux de table, entre autres de tout ce qu'on raconte de l'adversaire et de la bonne bière, évidemment. On se retrouve là-bas. À tantôt. nous voilà de l'autre bord du beat à bombe. Piu, 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 piu. Jason, tu nous as amené du bon lore. Gâte-nous donc.
C'est plutôt drôle ton costume de Mega Man Indy. Ça a du pognon au bureau, ça?
J'ai acheté. J'ai acheté il y a quatre ans.
Avec le gros pistolet en plus là sur la
main. Ce que je racontais, c'est que c'était pour un événement, puis je m'étais déguisé en Old Man Mega Man. Fait que j'avais comme une patch avec une balafre, puis j'étais comme, puis je pitchais des Peppermint. C'était bien le fun.
Ok, mais t'es-tu sorti dehors de même aujourd'hui, là?
Non. Ah. Il fait frais dehors, le gars, m'épine.
Pour vous donner foi en l'humanité, là, moi, j'ai ouvert pour l'Halloween, là, il y avait comme une base moyenne sur ma rue, il y a de l'heure du temps, là. Fait que le beaucoup de kits d'Halloween est zéro costume de Marvel.
Ça va tout changer quand ils vont sortir un set de Magic.
Oh, ben,
mais les dernières années, là, c'était Marvel. Ouais. Là, c'était des zombies, des zombettes, des vampires. Il y avait un ninja rouge. J'ai vu une gang d'ados avec une planche de Ouija. Puis une gang d'ados, pas de costume, puis des sacs de vidange. C'est vers la fin. C'est, je leur ai tout donné mes bonbons. Et puis, merci, bonsoir. Alors, les gars, fait que, on va aller se faire un petit peu de lore. Hein. J'ai posé la question au début. C'est quoi le bateau le plus légendaire dans l'histoire de Magic? Et c'est beaucoup relié, en fait. Moi, je viens de la Gaspésie, là, j'ai tout trippé sur les bateaux. Puis quand j'avais commencé à jouer à Magic, on avait Pirate Ship, hein, qui était comme... c'était pas très bon, là, mais bon. C'était un Sorcerer King sur un... Sorcerer sur un bateau. C'est faire un dégo, si tu veux. Lost Cavern of Ixalan, ils ont fait du gros fan service.
Oui.
Parce que, tu sais, dans Ixalan, les pirates de la coalition qu'ils appellent, c'est les pirates rouges, les pirates bleus, les pirates noirs, ils avaient fait des histoires dans le Ixalan 2017 qui étaient centrées autour de le bateau qui s'appelait le Belligérant. Donc là, enfin, dans Lost Cavern of Ixalan, ils ont décidé d'imprimer un véhicule qui s'appelle le Belligérant. C'est un véhicule légendaire, deux colorless, un bleu, un rouge, 5-5. Au fond, il y a le même power qu'Asikos que Jujam Jin. Hein. À chaque fois, par contre, pour le crewer, il faut que tu aies 3, fait que c'est quand même cher de power. Mais là, vous allez voir, la plupart des bateaux légendaires sont crew à 3. À chaque fois que tu attaques avec, tu vas créer un treasure token et jusqu'à la fin de ton tour, tu peux regarder le top carte de ta librairie n'importe quel temps et tu peux jouer un land ou un spell à partir du top de ta librairie. Je sais pas à quel point c'est bon cette carte-là.
Non.
Moi, je suis pas impressionné.
Les véhicules, c'est toujours.
Attention, les véhicules, c'est bon. Historiquement, ça doit être bon. Finis ta phrase. Non, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y, je peux.
Dernièrement, les véhicules, c'est pas. Ok, il y a eu Essica's Chariot qui a fait des vagues. Mais
il y a la limousine.
Mais sur combien de dizaines de véhicules qui ont essayé de sortir, que personne n'a jamais vu. Tu sais, même dans des sets qui étaient basés sur... Ouais. C'est qu'il y avait beaucoup de véhicules dedans. En draft, pourquoi t'en voyais un ou deux, peut-être, là, tu sais, puis...
C'est pas que les cartes véhicules sont mauvaises, c'est le crew, la mécanique de crewer. C'est souvent les véhicules qui sont bons. C'est l'habileté qui fait que t'es pas obligé de la
exactement, ils sont bons sans avoir à les crew.
Ben, ils ont essayé de régler ça dans Kamigawa.
Ouais, mais c'était pas assez. Mais tu sais, t'avais le Bangbuster, mais même pas nécessairement parce qu'il était crewé qui était bon.
Exactement. Ah, le pilote, ça a pas sauvé.
Non.
Ouais.
Mais ils ont essayé.
Écoute, je vais en parler plus loin des autres. Des bons. C'est ça, ma chronique, c'est
les bateaux.
Les bateaux légendaires. Le Belligérant, ça, c'est vraiment du gros fan service. Puis, c'est un peu ça qui m'a amené à faire cette chronique-là. Parce que je voyais du monde sur Twitter qui s'excitait le poil de la poche. Là, surtout les Vortos qui disaient « Ah, c'est cool, ils ont enfin mis le Belligérant sur une carte. » Puis là, c'était comme... Puis tu sais, c'est surtout des jeunes zoomers. Hein. Puis là, il était comme, tu sais, c'est le, j'ai vu, il y en a un, il avait écrit, c'est le bateau le plus légendaire dans l'histoire de Magic. Puis j'étais vraiment comme, comme vraiment un vieux boomer. Je l'ai vraiment mal pris. Écoute, j'en ai fait une chronique à terrain.
C'est le bateau avec Jace.
Get off my lawn!
Exactement. C'est quoi ça, le belligérant? C'est le bateau de Vraska dans Ixalan. Dans le vieux set d'Ixalan, ça, c'était la raison pourquoi les gens tripent dessus. C'est que c'est quand même, il est quand même cool, le storyline du belligérant. C'est dans le fond, là, c'est Vraska, hein, Relic Seeker, on s'en rappelle. Elle se fait envoyer par Nicole Bolas sur le plan de Ixalan pour voler le Immortal Sun. Et c'est la carte là, qu'on a tellement vue souvent en 2018, le Vraska Contempt, qui transforme un genre de capitaine en pierre. Fait que dans le fond, elle se pointe sur Ixalan, elle pogne un bateau des les fameux conquistadors puis vampires, elle transforme le capitaine en pierre, ça fait peur aux autres. C'est mon bateau maintenant, j'en ai besoin pour faire ma quest. Et dans le fond, le capitaine qu'elle a transformé en pierre devient la figure de proue du belligérant. qui est le bateau, ouais. Puis là, c'est ça, c'est membres d'équipage, ben éventuellement, elle ramasse Jace Cunning Castaway, qui avait, après les événements sur la manquette, s'était retrouvé amnésique et Robinson Crusoe sur Ixalan. Fait que Jace devient comme un de ses membres de ses équipages, et les autres membres d'équipage, j'étais mentionné dans le storyline, mais il n'y avait pas eu de carte. Il était seulement sur des flavor text, des choses comme ça. Fait que là, ils ont fait, jusqu'à date, là, dans les spoilers qu'on a vus, on a vu deux membres d'équipage du belligérant. T'as Breach, Eager, Pager. Ça, c'est le gobelin. Hein? C'est un peu comme le comic relief. T'as tout le temps, le dans les films de pirates, ça va être le moussaillon. Hein? Mais là, on est à Magic. Fait que bien sûr, c'est le Goblin Pirate. Ces deux qu'on a là, c'est un rouge First Strike 3-3. Et quand un pirate que tu contrôles attaque, soit que tu fais un treasure token qu'une créature peut pas bloquer, ou tu exiles le top de ton librairie et tu peux la jouer. Ça là, c'est vraiment commun à Star dans Magic. Je trouve là, qu'ils ont vraiment trouvé le petit truc qui manquait au rouge. Tu sais, c'est le light up the stage. Là, c'est que tu joues la première carte de ta librairie. Là, si t'attaques, là, je trouve, tu sais, je trouve que c'est le belligérant fait ça, hein, vous remarquez, là. L'autre membre d'équipage, c'est Malcolm Allering Scoundrel, qui est
un nom qui s'inspire des Mayas et des Aztèques, hein, c'est ça.
Oui, Malcolm.
C'est une joke.
mais on va.
C'est un Irish, là. Fait que là, c'est ça. Ouais. C'est un Siren Pirate, colorless bleu, 2-1 flash flying. Et quand il fait du dégât à un joueur, tu mets un Chorus Counter dessus, tu piges une carte et tu la discapes. Puis si t'as 4 Chorus Counter de plus, ou plus sur ton Malcolm, tu peux caster la carte que tu as discartée sans payer son mana cost. C'est quand même pas pire. Je sais pas si ça va voir du construit, là, mais ça, en draft, ça, c'est bon.
Ouais. Et, d'ailleurs, spoiler alert, Malcolm, on m'en entend parler dans les histoires, ça s'en vient.
Restez tuné up, là, Andy, la semaine prochaine ou la semaine après, va nous faire l'histoire de Lost Cavern of Ixalan.
Là, je sais que c'est juste moi qui trippe ses mains des personnages dessinés, mais il l'attache avec. Il attache comment son manteau? Sa redingote est superbe, mais il l'attache.
Ouais, mais il y a des ailes.
Non, mais si tu regardes à la jointure là, de ses ailes, on dirait qu'il y a comme des mains qui sont pointées dans la même direction que ses ailes.
Ah, ok, c'est bon.
Je veux parler de bateau.
Il y a deux mains, là. Ouais, on les voit.
Vous estimerez sur l'anatomie.
C'est bon. Je vais garder 5 minutes dans le storyline la semaine prochaine.
C'est le belligérant. Je pense pas qu'on voit le belligérant dans le storyline parce que ça s'en va dans des cavernes. Puis comme, en tout cas, je sais pas comment qu'un bateau rentrerait dans des cavernes. On verra des rivières souterraines.
Des mers intérieures.
Ah oui, Underground Sea, peut-être.
Ben là, regarde où est-ce qu'il s'en va.
Et ça aurait été un bon reprint, Underground
Sea. Les Echoing Deeps.
Oui. Mais moi, je trouve pas que c'est un bateau qui est légendaire, mais je pense pas qu'il est légendaire avec un L majuscule. On s'entend.
Je pense pas qu'il va croquer.
Voilà!
Pour être légendaire avec un L majuscule, il faut que ton bateau il vole. C'est le premier requirement. Puis, vous allez voir, là, à partir de maintenant, tous les prochains bateaux, ils volent. Puis, je pense que c'est à cause de Mario Bros. 3.
Là, Mario Bros. 3
à est cause sorti... de. Oui?
À cause de toi, là, il va avoir, c'est clair qu'il va y avoir du Magic et Mario Bros bientôt. Là.
C'est sûr. Écoute, pense-y, tu sais. Moi, je pense que Mario Bros 3 est sorti en 90, il y avait des bateaux qui volent. Magic est sorti en 94, et depuis ce temps-là, leurs bateaux légendaires volent. T'as vraiment, chez notre génération à nous, là, les bateaux cool, ils volent.
On est sur le premier bateau de la culture populaire que je me souviens d'avoir vu, puis on l'a vu vraiment souvent au Québec, c'est le Arcadia de Albator.
Et ouais, il y a ça, c'est vrai. Puis il y a les Final Fantasy, là, il y a des airships dans toutes les Final Fantasy.
Ouais,
la chasse-galerie.
Oui, aussi, mais ça, c'est plus.
Mais ça, c'est un canot, là.
C'est un canot. C'est un bateau.
C'est clair.
C'est quoi la définition d'un bateau? On veut-tu faire de la sémantique à soir?
C'est une embarcation.
Ok, je te l'accorde. On continue. On va retourner dans le multivers de Magic, s'il vous plaît. Ouais. Fait que j'aurais pu dire que le Weatherlight,
c'est
le bateau légendaire avec un L. Clairement.
Il n'y a pas beaucoup, de bateaux qui ont donné leur nom à un set.
Ben écoute, il y a plusieurs sets, mais je me suis dit qu'on a fait une dizaine d'émissions sur le Weatherlight, fait que je pense qu'on peut le skipper, on est d'accord?
Ouais, c'est assez.
Il est dans
on en a parlé.
Il est hors catégorie.
Facile.
Oh. On est d'accord, le Weatherlight, tu sais, il y a des...
Oh, ouais, c'est clair.
On passe. On veut du nouveau. Fait que là, on commence. On va aller sur Kaladesh.
Bon choix.
Dans Kaladesh, il y a beaucoup de bateaux volants. Et non seulement il y a beaucoup de bateaux volants, mais dans mon top 3, là, top 4, il y a les deux bateaux légendaires avec un L majuscule, il y en a deux là, qui viennent de Kaladesh. Mon premier candidat que je vous propose, c'est le Sky Sovereign Console Flagship. Ça, c'était sorti dans Kaladesh en 2016 et ça l'avait shaky.
Ça, ça a vu du jeu.
Ouais. Ça a vu du jeu et ça voit encore du jeu en 2023. Colorless pour un 6-5. Vous voulez un bon véhicule là? À chaque fois qu'il rentre sur le battlefield ou qu'il attaque, tu fais un lightning ball où tu veux. Tu fais 3 de dégâts. Et son crew est de 3. Écoute, ça vaut du jeu. Parce que justement, c'est un gros véhicule qui vole, fait qu'il y a invisible, mais en plus, il shoot des lightning balls quand il attaque. Fait que tu peux souvent faire des removals. À l'époque, ça, le lore du Sky Sovereign contre son flagship, c'est quoi ce bateau-là? Ben, dans Kaladesh, t'as toute l'histoire de l'Inventor Fair. Hein, c'est, dans le fond, c'est Tezzeret là, qui convainc tous les inventeurs. De Hey guys, il faut faire des inventions. Puis son but à la fin, c'est de voler celle qui va inventer le Planar Bridge. Et comment qu'il va faire ça pour voler le Planar Bridge? Ben, toutes ces affaires-là, ça va être, tu sais, c'est la carte Confiscation Coup. Puis c'est, dans le fond, c'est le Sky Sovereign arrive au-dessus du Inventor Fair, vole les artefacts et il s'en va. Tu sais, il fait un coup à la Bowser, dans le fond. Le Sky Sovereign a vu beaucoup de jeux, beaucoup de jeux. C'était notamment, à l'époque, c'était les decks rose, blanc et rouge. Tu avais des cartes comme le Toolcraft Exemplar là, qui coûtait un pour un blanc, mais sauf que si tu contrôlais un artefact, hein, comme ton Sky Sovereign, ton Toolcraft était un 3-2. Puis là, ben, ça permettait de le crewer et d'attaquer vraiment rapidement. Donc, c'était vraiment fort. Sinon, l'autre candidat qui est de Kaladesh, qui, moi, je pense, est encore beaucoup plus cool, parce que, tu sais, le Sky Sovereign, c'est le bateau des vilains. Mais le plus cool, c'est tout le temps le bateau des héros. Puis, comme le bateau des héros est tout le temps un petit peu plus... c'est un gros cuirassé, le Sky Sovereign. Le bateau des héros, c'est comme le yacht. Hein, c'est le
petit rebelle, là.
Le speedboat. Fait que t'avais une carte qui était. Je trouvais ça vraiment cool comment qu'il l'avait amené. Il y avait une carte, c'était Weir of Invention dans Aether Revolt, où est-ce qu'on voyait un bateau en construction, un bateau volant. Puis ça, c'était le fameux tutor bleu là, que tu pouvais le payer en tapant des artefacts. On voit c'est une autre carte qui a vu beaucoup de jeux dans la moderne, notamment. Weir of Invention, il y a pas beaucoup de gens qui catchent que. Parce que le dessin est un peu bizarre, si tu sais pas c'est quoi, là. On s'entend.
Ouais.
Weir of Invention est très 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 joué un peu moins de nos jours, mais beaucoup à l'époque en format moderne notamment. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont catché que l'espèce de truc qui est comme en construction sur la carte, c'est le Earth of Kyren. C'est un véhicule qui coûte 2 colorless pour un 4-4 Flying Vigilance avec encore une fois un coup de 3. Et ce qui était de spécial de Earth of Kyren, hein, parce que j'ai dit c'est le bateau des héros, tu peux enlever un loyalty counter d'un planeswalker que tu contrôles à la place de le crewer. Fait que si t'as un planeswalker, il embarque dans ton Earth of Kyren et il rentre au poste.
Tu l'alimentes avec ton spark.
Et dans le fond, c'est le cœur de Kyren. Hein. Est-ce que quelqu'un sait qui est Kyren?
Non.
Ça doit être le père de l'autre, là, la fille de Kaladesh. Là. Ça doit être Saïli. Tout le temps en même. Saïli, merci.
Et Andy, bon avec les noms. Mais non, c'est pas le père de Saïli. Kira, c'est le père de Chandra.
Ah, ben
oui. Oh, excuse!
Ouais, c'était trompé de Planeswalker.
Franchement. Mais c'était un père de quelqu'un pareil.
C'était un père de quelqu'un. Fait que c'est ça, c'est dans Magic Origin, hein, c'est sur l'enfance de Chandra. On avait même fait un épisode très basique là-dessus. Kira Nalahar. En fait, c'est le mari de Pia Nalahar, qui est une autre carte qui vaut beaucoup de jeux. Kira Nalahar, c'est le père de Chandra. C'est pas mal lui qui lui apprend à être une espèce de petite espiègle, et elle va lui avouer qu'elle fait apparaître du cheveu par accident de temps en temps, parce que bien sûr sur Kaladesh, faire de la magie était interdit. Et éventuellement, le problème, c'est que Kira Nalahar, il est dans les Renegades, hein, qui sont la rébellion contre la dictature du consulat. C'est qu'à un moment donné, il se fait cut et il se fait exécuter. Ça, c'est la carte Lost Legacy, hein, parce que, au fond, il se fait tuer. Mais il devient un peu un martyr de cette résistance-là. Et lorsque Chandra va revenir avec le Gatewatch pour crisser une volée au monde, il y a dans Aether Revolt beaucoup de cartes que vous savez pas, mais le Heartwork, ça se passe à l'intérieur ou dessus le Earth of Kyren. Le point des événements, c'est dans le fond, c'est que la gang de les Renegades, ils bâtissent un vaisseau en l'honneur de leur martyr qui est le père de Chandra. Et ce vaisseau-là va servir d'espèce de vaisseau principal dans l'attaque contre le consulat. Et dans le fond, tu sais, comme la carte Fatal Push, c'est sur le deck du Earth of Kyren où ce qu'on voit, j'ai oublié son nom, là, c'est le Aetherborn, j'ai un blanc de mémoire sur son nom, mais c'est bon, c'est le bonhomme qu'on voit sur Fatal Push qui donne le coup de pied, et Baral, hein, qui est le chef de police du consulat, il va rentrer sur il va réussir à s'infiltrer sur le Earth of Kyren, c'est la carte Hungry Flame, où on voit genre des spells, hein. Tu vois, ça dit dans le Flavor Text, dans la voûte du Earth of Kyren, Chandra a répondu à Dovin Bahan avec une réponse explosive, enfin c'est un spell qui fait 3 dégâts. Bref, tu sais, il y a beaucoup d'actions qui se passent avec le Earth of Kyren, mais la vraie action de pourquoi c'est une créature légendaire, c'est que cette carte-là était vraiment bonne dans le standard. Moi, j'aimais beaucoup, c'était mon deck là, en 2016-2017. Non, 2017, parce que le set est sorti en 2017, mais bon, c'était dans le fond, là, comme l'autre, le Sky Serene, là, tu le jouais avec Toolcraft. Exemplar.
Ça peut être gelé, Jason.
Ou même. Qu'est-ce qu'il y a?
De gelé.
Continue. L'image de gelé.
Continue.
Continue.
Puis, tu sais, le monde jouait avec le Planeswalker Gideon Ally of Zendikar, là, qui coûtait juste 4. Puis là, quand tu le rentrais en jeu, ben, tu clouais ton vaisseau, puis là, tu pouvais attaquer de 4. Puis là, à un moment donné, on s'était mis à le jouer dans du mono noir avec des Bone Picker puis des Night Market Lookout. C'était encore plus rapide. Ça, c'était les fameux decks mono noir en 2018. Fait que ce vaisseau-là, le Earth of Kyren, est selon moi un des gros vaisseaux légendaires qui vaut la peine. Et le dernier, et non le moindre. On va changer de plan. J'ai encore freeze?
Non,
ça va.
On s'en va sur Ravnica.
On s'en va sur Ravnica, chez les Boros, pour le bateau légendaire final de ce soir.
Ah oui!
Hey, bah, gâche pas les punch. Donc, t'avais un roman sorti en 2006, je pense. Ouais, c'est le 2006. Le roman s'appelait Dissension. C'était le roman qui venait avec le set de Dissension. Et ça se passait, c'était surtout comment que les Boros. Parce que dans Dissension, c'est que le Guild Pack marche plus. Là, les guilds commencent à se faire la guerre une contre l'autre. Puis Boros, que leur job, c'est de tu sais, Azorius, c'est un peu comme la loi, puis les juges, ces choses-là. Mais Boros, c'est vraiment les policiers de terrain. Fait qu'ils sont comme un peu débordés dans cette set-là avec tout ce qui se passe. J'ai pas lu le livre, là, je vous épargne les gros détails. Mais il est mentionné dans ce livre-là, il y a un gros passage vraiment important où ce que les Boros ont un genre de gros vaisseau volant, encore un vaisseau volant, qui s'appelle le Parélion. Et le Parélion, à la fin, il crache dans un building. Font un genre d'attaque suicide avec, et le Parélion se fait détruire. Et ça l'avait fait beaucoup jaser les fans, le fanbase de Magic. En 2018, quand est sorti Guilds of Ravnica, t'avais la carte Sacred Foundry, qui était le shock land des Boros dans ce set-là, hein, qui le dual land rouge et blanc. C'était très subtil dans le dessin, c'est que, dans le fond, c'est les forges des Boros, hein, dans le fond, ce qui fabrique les armes, les armures, ces choses-là. Et dans le background, on voit, ça a l'air d'une forme d'enclume, hein, vous serez d'accord avec moi, là, complètement
oh, ouais, arrière. Oui. Là. Ah sure. Oui, là, je le vois, là.
Tu le vois, là. Trouver Charlie.
Ouais. Ah. Ben, ça, c'était le Parélion 2 qui a fait son apparition dans War of the Spark, quand Nicol Bolas et son armée d'Éternel envahit Ravnica. Le Parélion 2 est, selon moi, le vaisseau légendaire numéro 1. Le vaisseau le plus légendaire dans l'histoire de Magic.
Déployez le Parélion 2.
Déployez le Parélion 2. 6 colorless, 2 blancs, 5-5, flying, first strike, vigilance,
il fait tout,
mais non seulement il fait ça, mais
y a déjà quelqu'un qui a payé 8 pour le Parélion 2?
Non. Mais regarde, quand le Parélion 2 attaque, tu crées deux anges 4-4. Dans le fond, tu crées deux Serangers, hein, deux anges 4-4, flying, ouais. Vigilance, ouais, qui attaquent avec lui.
C'est là que ça te donne une idée du scale, de la grosseur de la patente, quand tu te rends compte que les oiseaux qui tournent autour,
c'est des anges.
C'est des anges. C'est awesome le dessin qui est dessus. Puis je vous fais remarquer que la tour qu'on voit en bas à gauche, c'est le Planner Beacon. Fait que dans le fond, c'est ça, que tu swings de 12.
Une 5-5.
Non, tu swings de 13.
De 13, oui, de 13. Ça, c'est très, 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 très fort. Fun fact, là, il y a beaucoup de cartes dans le artwork où les flavor text tournent autour du Parélion 2 dans War of the Spark. C'est dans le fond, tu sais, comme Nicol Bolas et son armée arrivent là, à Monquette à travers le Planner Bridge. Et là, le Boros, ils répondent, ils sortent le Parélion 2 et tous les anges qu'il y a avec. Fait que les anges dans le set avaient rapport. C'est un peu comme le c'est comme un porte-avions avec ses avions. Ouais. Tu sais, le Sunblade Angel, qui ça disait, là, ça c'était l'ange qui coûtait 6 pour un 3-3 Flying Vigilance Lifelink. Sous les commandements de Feather, les escadrons d'anges ont été autour du Parélion 2 sortant leur lame. Qui était faite avec le l'aube, c'est quoi, Molten Dawn?
C'est l'aube, Molten Dawn, c'est fondu, l'aube fondue.
Ouais, mais... Ils ont fait leurs épées avec l'aube, là, ça, c'est très poétique. Ou Rally of Wing, hein, Rally of Wing, ça c'était l'instant qui est un tap toutes les créatures, puis là ils attaquent, ils ont flying et plus deux, plus deux. Vous remarquez sur le dessin, on voit c'est des anges qui tombent en piqué. Puis en haut à droite, un peu loin, on voit l'aile
du
Parélion 2. Hein. C'est très, très subtil.
Oui.
Et bien sûr, Feather de Redeem, qui est la chef des Anges Boros. Un rouge, un blanc-blanc, pour un 3-4 flying qui permet de rejouer tes spells qui l'a targeté. Vous remarquez que sur le artwork en arrière d'elle, en haut à droite, très petit, ouais. Là, on voit le Parélion 2. Donc, vous voyez, là, il est très mis à l'honneur, ce gros vaisseau-là. Les cartes rouges aussi, hein, la montagne basique dans War of the Spark, où ce qu'on voit, c'est le Planner Beacon, la grosse tour qu'on voit. Vous remarquez que le Parélion 2 tourne autour.
Ah oui, il est en train de faire une manœuvre. Là, ça.
Faire une manœuvre qu'on voit en fait sur Solar Blades, la deux colorless, un rouge, un blanc, qui fait les créatures font des dégâts à eux-mêmes. On voit le Parélion 2 là, qui a ouvert son espèce de main weapon. Rayon de soleil qui fait fondre les
c'est pas mal le truc le moins aérodynamique que j'ai vu. Voir,
il y a zéro aérodynamique. Là, c'est un gros building. C'est un building, oubliez pas. Hein, c'est
non, mais le design qui fait peur, puis j'entends pratiquement même le son de les gens de la sécurité dans Tron.
Ah ouais.
J'entends le monde cramé en dessous du Parélion dans
les
rues.
Check les hostiles.
il y a des gros réacteurs en dessous. Ouais.
Ça n'a pas de sens.
Écoute, c'est vraiment fort. Puis ce qui est le fun, la façon dont Parélion 2 est joué, si vous avez jamais joué en format Pioneer, moi tu sais que je suis allé au gros tournoi l'autre jour, là, j'en ai rencontré
plein d'idées comme vu. Ça.
C'est sûr. Fait que tu te prépares. Il n'y a personne qui paye 8 pour sortir le Parélion 2.
Mais comment tu peux?
Ben c'est ça, fait que tu joues, il appelle ça les decks Abzan, hein, c'est du blanc, noir et vert. Fait que dans le fond, c'est qu'au début, dans tes troisième tour, tu remplis ton graveyard avec des cartes, par exemple, comme Traverse the Ilvenwald ou du Connive. Et éventuellement, tu vas mettre ton Parallion 2 dans ton graveyard. Et éventuellement, avec tu sors ton Grease Fang Okiba Boss qui vient de Neo Dynasty, que lui, ce qu'il fait quand il rentre sur le. Au beginning de ton combat, tu n'as même pas besoin d'attaquer. C'est au beginning de ton combat, tu retournes un véhicule de ton graveyard sur le battlefield et ça lui donne haste. Sauf qu'à la fin de ton tour, tu le retournes.
Dans ta main.
Dans ta main, mais on s'en fout parce que dans le fond, tu viens de swinguer de 13, puis ça l'a fait deux anges 4-4 qui restent là.
C'est pas parce qu'il paye en plus pour le 4 crew.
Puis tu t'as dit éventuellement, c'est pas mal ton 3 éventuellement.
c'est ton 3.
Des Greasefang, ils sortent tout le temps, ton tour.
Ouais. Puis, fait que dans le fond, c'est faut que tu tues Greasefang avant le combat step. Il n'y a pas besoin d'attaquer avec son Greasefang pour que ça fonctionne.
Non, c'est ça. Fait que un petit peu de Graveyard 8. Là.
Ouais. Moi, j'y vais. Quand je le vois arriver, le Abzan, là, je garde mon removal dans ma main. Fait que c'est le Parallion 2, hein, c'est selon moi le Skyship légendaire, presque à égalité avec le Weatherlight. Vraiment une carte épique que je salue et que c'est ça.
Wow. Bon choix. Ça manque de pirates, mais c'est correct.
Ouais, mais il y avait des bateaux.
Petite mention spéciale, parce que le Weatherlight, il y a pour l'instant de tous les véhicules que tu as mentionnés, il y a l'avantage de pouvoir utiliser sur d'être le Planeswalker, fait qu'il va être présent sur plusieurs plans, donc dans plusieurs histoires. Le bateau épique avec Jace puis Vraska, il y a le défaut d'avoir Jace dessus puis d'être poigné sur Ixalan.
Puis on sait comment ça a fini, cette histoire-là, ça a super bien fini.
Mais juste une petite mention spéciale, dans même qu'être pas long. Pas loin. Si on parle du Weatherlight, il faut mentionner le Prédateur.
C'est vrai.
Ouais. Ouais.
Ben, écoute, petite mention spéciale. Moi,
mention spéciale. Je suis d'accord.
Si tu as mentionné le méchant puis le gentil sur Kaladesh, tu as mentionné le méchant puis le gentil.
Excusez, mais. Parallion 2. Parallion 2.
Parallion 2.
Parallion 2.
Alors, c'est la fin de notre superbe podcast sur les pirates de Magic et sur ce qui s'en vient dans Ixalan. Jonathan, c'est quoi qu'on entend en ce moment?
Monkey Island, le premier version old school. Sérieusement, si vous avez jamais, joué à ça, faites-vous plaisir.
Il y a un remake de toute façon plus récent.
Ouais, Double Fine. Gang qui est parti de là. Et moi, c'est Jim Schaffer qui avait revampé ça, plus d'autres jeux. Rendez-vous service. Puis en plus, vous allez probablement avoir l'option de vous épargner la frustration qu'on avait à l'époque.
De taper, puis que la personne, le jeu, il comprend pas qu'est-ce qu'on a.
De découvrir qu'il fallait que tu mettes le fromage sur la pâte à dents pour pouvoir faire rouler le singe en haut du mât, que t'avais pas trouvé le pixel sur lequel cliquer, puis il fallait que tu dises la troisième réplique en même temps que la deuxième réplique de l'autre.
Ouais, c'est un jeu.
On sent du vécu ici.
Les point and click, il y avait beaucoup des solutions très compliquées.
Ouais.
Yep. Et des fois random, que tu fais comment tu voulais que j'arrive à ça?
Ben, les designers disaient volontairement, ils mettaient la joke en premier, puis le game design, puis le gameplay en deuxième, puis en troisième.
Ouais.
Fait que si vous avez pas beaucoup de temps, il y a des walkthroughs qui existent. Le jeu est assez long que vous allez trouver la solution beaucoup plus facile. Ouais, profitez du jeu.
Sauvez-vous un peu de frustration.
C'est ça. Puis je pense même qu'il y a un hint system dans le remake déjà. Fait que c'est excellent soundtrack, excellent jeu. C'est ma recommandation.
Merci beaucoup, Jonathan Gauthier. François Lompré, merci de ta belle visite.
Ben ouais, je vais revenir. Là, puis,
il faut.
On va reparler de bientôt du lore encore plus que j'ai entendu dire.
Oui, les épisodes vont sortir plus loin au mois de novembre, puisqu'on veut faire Lost Cavern of Ixalan avant. Mais effectivement, on fait le bloc de Odyssey, Torment et Judgment.
Et voilà.
Yes.
Emmanuel, côté Séguin, merci pour les previews.
Rock'n'roll.
On travaille fort sur le draft qui s'en vient, le draft guide.
Oui.
Et Jason.
notre sphinx national. Merci pour ton beau lore que tu nous as amené aujourd'hui. Mon nom est Andy Jacques. Vous avez écouté Terre et Basique, qui était une présentation de notre magasin affilié L'Adversaire au 4303 rue Sainte-Catherine-Est à Montréal, bien sûr. On va remercier Bone pour ses beats. On va remercier Martin Godette pour l'édition. Et ben c'est tout. Passez une excellente soirée ou journée ou semaine. Au revoir.